Dan Verdaguer pour le journal d'Haïti et des Américaines. Bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à toutes et à tous. On va revenir aujourd'hui sur les événements à Port-au-Prince ces derniers jours avec des violences, des dégradations et un bilan provisoire de 4 morts après l'annonce de la hausse des prix des carburants. Il reste ce matin un climat calme mais tendu à Haïti où une grève générale a été décrétée. On sera en ligne avec Amélie Baron dans un instant. Au Nicaragua, nouvelle violence également lors d'affrontements entre manifestants anti-Ortega et forces paramilitaires ce dimanche. Difficile de comptabiliser mais il y aurait 14 morts dans deux villes situées au sud ouest du pays, un bilan provisoire. Reportage sur l'île Margarita au large du Venezuela qui a vu ses touristes fondre comme neige au soleil, la faute à l'hyperinflation dans le pays. Le reportage sur place de Benjamin Delisle dans cette édition. Bienvenue à tous. On revient donc sur la situation en Haïti après un week-end tendu dans la capitale Port-au-Prince. Amélie Baron est en ligne de Port-au-Prince. Amélie, quelle est la situation ce matin dans la capitale?
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'ambiance dans la capitale ce matin est inhabituelle. Une certaine tension perdure parce que personne ne sait si les violences que l'on a connues depuis vendredi après-midi vont reprendre. La majorité des rues ont été débarrassées de leurs barricades. Il reste ce lundi matin quelques rares points avec des pneus enflammés, mais la circulation est très très faible. Rien à voir avec les traditionnels embouteillages matinaux. Les grands axes sont quasiment déserts. Ne circulent que quelques rares voitures privées et des taxis-motos, mais en nombre réduit. Le fait notable, c'est donc l'absence totale de véhicules de transport en commun. Aucun petit bus ou tap-tap en vue et parmi les piétons qui circulent dans la capitale, aucun élève en uniforme. En ce sens, on peut dire que le mot d'ordre de grève lancé par les contestataires a été suivi. Mais surtout, les habitants de la capitale sont pris par la peur de sortir et ne pas pouvoir revenir chez eux si les violences reprennent. Donc beaucoup attendent encore avant de se déplacer.
Amélie, la peur qui domine effectivement parce qu'au cours des dernières 48 heures, le pays et surtout Port-au-Prince ont été le théâtre d'extrêmes violences d'une ampleur jamais atteinte par le passé.
Absolument, les Haïtiens sont unanimes. Jamais ils n'avaient été confrontés au chaos que l'on a connu ce week-end, ni en 86 au moment du départ de Duvalier, ni en 2004 lors du départ du président Aristide, ni en 2008 lors des émeutes de la faim. Selon eux, jamais la situation n'avait été aussi instable et dangereuse. C'est l'annonce de l'importante hausse des prix des carburants qui a tout déclenché. Dès vendredi après-midi, tous les axes majeurs et même les rues secondaires de la capitale ont été paralysés par d'immenses barricades et des pneus enflammés. Et l'absence totale de la police dans les rues n'a fait qu'aggraver la situation. À partir de samedi, les pillages et les incendies de commerce ont commencé. Des dizaines de voitures ont été brûlées. Et au niveau des barricades, l'agressivité de certains groupes était absolument terrible. Certains points de la capitale, qui sont d'ordinaire épargnés par les manifestations, sont devenus samedi et dimanche clairement des zones de non-droit avec des rançonnages en règle. À noter aussi la présence d'individus circulant armés, à pied ou à moto. Ils tiraient parfois à tout va en faisant évidemment des victimes. Mais vu la situation, il est encore impossible d'établir un bilan précis des pertes en vies humaines.
Voilà ces violences qui ont été déclenchées donc par la décision d'augmenter les prix des carburants. Vous le disiez Amélie, une mesure dictée par le FMI depuis février. Vu le chaos, le gouvernement haïtien est donc revenu sur cette décision en moins de 24 heures. Comment les autorités vont-elles pouvoir concilier cette colère populaire et les engagements pris avec l'organisation financière, Amélie?
Il paraît difficile pour le Premier ministre aujourd'hui de conserver son poste car sa tête est réclamée non seulement par la population mais surtout par une partie des parlementaires. Mais le président ne semble pas encore décidé à se séparer de Jacques-Guy Lafontan. Face à cette vague de violence, Jovenel Moïse n'a pris la parole que samedi soir et son discours de 23 minutes a été une énorme déception. Ses propos ont paru totalement déconnectés de la réalité, lui se satisfaisant d'être au pouvoir depuis 17 mois et de ses programmes de changement. Un changement que justement les manifestants ont dit ne pas ressentir les effets dans leur vie quotidienne, toujours eux en lutte avec le chômage massif et la pauvreté extrême. Répondre aux exigences du FMI dans ces conditions sociales on ne peut plus précaires n'est donc pas envisageable, ce qui plonge du coup le pays aujourd'hui dans un réel inconnu sur le plan tant social, économique que politique.
Merci beaucoup Amélie Baron en ligne avec nous de Port-au-Prince et on suivra bien sûr avec vous ces événements en Haïti. La revue de presse des Amériques, on retrouve Sarah Cozzolino. Bonjour Sarah.
Bonjour.
À la une de la presse aux États-Unis aujourd'hui, la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême par Donald Trump qui suscite la polémique.
Le sénateur républicain Lindsey Graham a prévenu dimanche que la nomination du prochain juge serait un cauchemar pour les démocrates au Sénat, rapporte Politico. Selon lui, les républicains ont 4 noms à proposer et tous sont des tickets gagnants, a-t-il averti. Cette perspective inquiète plusieurs quotidiens américains avec un président pro-life, c'est-à-dire contre l'avortement. La presse américaine examine la possibilité d'un nouveau juge qui serait contre l'amendement Roe versus Wade, amendement qui a légalisé l'avortement en 1973 au niveau fédéral. Le choix de Trump pour la Cour suprême va changer les règles du jeu, estime le Newsweek. Un choix périlleux, poursuit le magazine, puisque les sénateurs doivent valider la nomination du président. Or, 2 sénateurs républicains ont déjà fait savoir qu'ils s'opposeraient à la nomination d'un juge engagé contre l'avortement. Donald Trump devrait donc convaincre des sénateurs démocrates, ce qui n'est pas une mince affaire.
Et les défenseurs des libertés individuelles, Sarah, sont eux évidemment contre la perspective de la nomination d'un juge anti-avortement.
L'amendement Roe ne concerne pas seulement les droits des femmes, c'est une question de liberté personnel, écrit Nancy Northup, présidente du Centre pour les droits de reproduction dans le Washington Post. Laisser le gouvernement contrôler le corps d'une femme, prévient l'auteur, c'est l'inviter à la tyrannie sur toutes nos décisions les plus intimes et personnelles. Le New York Times, quant à lui, adresse un message aux progressistes sur les sujets de société. Ce n'est pas le moment de désespérer, titre le quotidien, qui leur donne 3 conseils. D'abord, être réaliste, car oui, la nomination de Trump sera sûrement validée par les sénateurs de son camp, selon le quotidien. Ensuite, ne pas perdre espoir. Les démocrates pourraient contrebalancer les pouvoirs de la Cour suprême en gagnant des places au Congrès à l'automne, par exemple. Enfin, connaître ses forces. Les démocrates disposent d'un avantage dans l'opinion publique pour certains domaines, comme l'assurance santé. Ils devraient donc en profiter.
Après les États-Unis, direction le Nicaragua, Sarah, avec de nouvelles violences. Ce dimanche, une attaque de la police et de milices paramilitaires pro-gouvernementales s'est soldée par la mort de plusieurs personnes dans 2 villes situées au sud-ouest du pays. Le bilan très lourd, annoncé de 14 morts, communiqué par le Centre nicaraguayen des droits de l'homme, est encore provisoire. Cette recrudescence des affrontements entre opposants au président Ortega et forces paramilitaires met en péril la recherche d'une solution à la crise qui secoue le pays depuis maintenant 3 mois. À Mexico, la correspondance de Patrick John Buffle.
À l'aube de ce dimanche, des agents de la police anti-émeute, accompagnés d'hommes en civil, cagoulés et fortement armés, ont pénétré dans les villes de Diriamba et Rinotepe pour démanteler des barrages routiers. Ces nouvelles attaques ont provoqué des affrontements meurtriers entre les opposants au régime de Daniel Ortega et les forces de l'ordre qui ont imposé un véritable état de siège dans ces 2 agglomérations, d'où la difficulté de connaître le nombre exact de victimes. Ce regain de violence est intervenu un jour après le refus du président Ortega d'organiser des élections anticipées en mars prochain, comme l'avaient proposé les évêques et les opposants, qu'il a qualifié de putschistes et de subversifs. Dans ce contexte, l'Église catholique, qui joue le rôle de médiateur, a déclaré qu'elle allait réévaluer la poursuite du dialogue national qu'elle pensait renouer cette semaine. Ce qui fait craindre que les négociations entre le gouvernement et l'opposition s'interrompent définitivement, mettant fin à la recherche d'une solution pacifique à cette crise qui a fait déjà plus de 250 morts. Patrick John Buff, Mexico, RFI.
Et au Nicaragua, l'heure est au recueillement. Sarah, c'est ce que rapporte la presse ce matin.
Oui, le quotidien La Prensa parle de sièges et de terreur à Managua et dans d'autres départements du pays. Des fleurs sur des tombes fraîchement creusées sont en une d'El Nuevo Diario. Deuil et indignation, titre le quotidien, qui donne la parole à un père dont le fils de 18 ans a été tué dans la ville de León, dans l'Ouest. C'était un bon garçon, il ne faisait de mal à personne. Innocent, tendre et avec un avenir, ils me l'ont criblé de balles. 18 balles l'ont défiguré et à l'hôpital, on ne veut toujours pas me rendre son corps. Le quotidien nicaraguayen relaie aussi la voix de l'Église dans le pays. Les évêques de la conférence épiscopale dénoncent l'imposition d'un état de terreur qui met en péril le dialogue national.
On va parler du Brésil à présent, Sarah, où l'embriglio judiciaire sur la libération de l'ex-président Lula fait la une des journaux.
Les manœuvres du PT, le parti de l'ex-président militants pour libérer Lula ont échoué, titre Correio Brasiliense. Il n'y a pas de gentil dans le western judiciaire sur Lula, analyse Folia, pour qui le Brésil est devenu une grande confusion judiciaire. El Globo confirme ce point de vue. La décision sur Lula révèle une crise du pouvoir judiciaire. Le quotidien publie un entretien avec un ancien juge du tribunal suprême fédéral et avocat de Lula, Sepúlveda Pertence, qui s'exclame « Je n'ai jamais vu une telle comédie judiciaire ».
Enfin, direction l'Argentine, à la veille de l'ouverture du débat sur la dépénalisation de l'avortement au Sénat. L'Église argentine espère encore freiner la promulgation de cette loi.
Oui, on retrouve une photo, Anne, dans plusieurs quotidiens argentins, celle d'une foule immense massée devant la basilique de Luján. On y distingue des drapeaux argentins et des foulards bleu ciel, signe distinctif des pro-vie. Les fidèles écoutent le discours de Monseigneur Oscar Orrea. Il fustige une loi qui légitime l'élimination d'un être humain par un autre être humain, rapporte Clarine. Mais l'absence de fonctionnaires nationaux n'est pas passée inaperçue, remarque La Nation. C'est le signal de la distance entre l'Église et le gouvernement qu'a engendré la question de l'avortement.
Merci beaucoup Sarah Cozzolino pour cette revue de presse des Amériques. C'était autrefois une destination touristique très prisée, malgré ses paysages à couper le souffle et ses plages superbes. Le Venezuela traverse une crise qui affecte très durement le tourisme. Entre l'instabilité politique, l'hyperinflation et l'insécurité qui touche en particulier la capitale Caracas, les touristes ont déserté le pays et c'est particulièrement frappant sur l'île Margarita au large du Venezuela. Cette île surnommée la Perle des Caraïbes ne vit pourtant que du tourisme. Aujourd'hui, ces quelques 500 000 habitants sont isolés et doivent trouver d'autres sources de revenus. Isla Margarita, le paradis déserté, c'est un reportage signé Benjamin Delisle.
Une plage de sable fin des chaises longues, une eau turquoise comme de nombreuses autres plages de l'île Margarita, celle de Pampatar à l'est est un petit coin de paradis. Mais depuis quelques mois, les chaises longues sont décidément bien seules, la plage est presque vide. Michael est serveur dans l'un des restaurants de la plage.
Avant, le tourisme était presque excessif, les gens venaient de Colombie, du Brésil et même de France. Tout cela a changé à cause de la situation du pays, à cause des prix. Tout cela a beaucoup influencé le tourisme, ce n'est pas comme avant.
En effet, les rares touristes qui bronzent sur la plage ce jour-là ne viennent pas de très loin, ils sont tous vénézuéliens et plutôt aisés, comme Nuvia de Barquisimeto.
Nous sommes horrifiés du coût de la vie comparé aux dernières années. À cause de l'hyperinflation, tout est très, très cher, en particulier les transports. Nous sommes venus en voiture, mais pour prendre le ferry vers l'île, c'était compliqué. Nous avons passé des jours sur Internet à chercher des billets avant de trouver enfin quelque chose.
Et il n'y a pas que les liaisons de ferry qui sont de plus en plus rares. C'est encore plus compliqué de prendre l'avion, explique Jesús Irauskin, président du Conseil supérieur du tourisme au Venezuela.
Depuis l'année dernière, beaucoup de lignes aériennes internationales ne sont plus desservies dans le pays, ce qui nous a fortement isolés de l'extérieur. En parallèle, en ce qui concerne les lignes intérieures, il y a beaucoup de problèmes de connexion entre les différents états du pays à cause du manque d'avions et de pièces. Les conséquences sont importantes dans un moment où nous essayons de consolider le tourisme au Venezuela.
Résultat, le secteur privé a de plus en plus de mal à maintenir ses infrastructures. Lorsqu'on traverse Port-Lamar, la plus grande ville de Margarita, on croise plusieurs anciens hôtels abandonnés. Ceux qui restent ouverts ne dépassent jamais les 50% d'occupation et sont soumis à de graves coupures d'eau et d'électricité. Cela affecte aussi la population locale dans le village très populaire d'El Valle, au centre de l'île. Les habitants sont presque coupés du monde. Maereria vend des objets artisanaux sur la place de l'église.
Parfois, on passe une semaine, même deux semaines sans eau. Il n'y a plus de médicaments, plus rien. Il n'y a même plus de bus pour emmener les enfants à l'école. Parfois, ils doivent attendre deux ou trois jours avant d'y retourner. Tout ça parce que le coût de la vie sur l'île est trop cher.
Le paradoxe, c'est que pour un touriste étranger qui paye en dollars, le coût de la vie est dérisoire. D'autant qu'ici, l'insécurité ne se fait presque pas sentir. Xavier Michel le confirme, ce Français gère un club de planche à voile sur la plage d'El Yaque au sud.
Moi, ça fait 25 ans que je vis ici, j'ai eu deux enfants. Si vraiment j'avais la conviction que c'était vraiment dangereux de vivre ici, ça ferait un moment que je serais reparti soit en France, soit sous d'autres cieux. Donc, que j'essaye de motiver les gens à continuer à venir. Et je crois toujours à cette destination qui est extrêmement magnifique.
Le président Nicolas Maduro avait dit ici même en 2016 que le tourisme serait le nouveau moteur de l'économie. Mais 2 ans plus tard, les touristes ne se massent toujours pas sous les parasols. Et la crise économique, dont on ne voit plus le bout, ne devrait pas aider à remplir les hôtels. Benjamin Delisle, de retour de l'île Margarita, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est l'heure de l'actualité des Outre-mer avec Tiziana Maron aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Anne.
À la une, le scandale du chlordécone en Martinique s'amplifie avec la dernière déclaration d'un ancien chargé de mission du plan chlordécone.
Le nom d'Éric Godard, ingénieur à l'Agence régionale de santé, est associé depuis 20 ans au chlordécone. Sa déclaration, faite en interne lors d'une réunion de cadre, a fuité et circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Le fonctionnaire dénonce une gestion opaque du risque chlordécone et de la communication par l'État. Cécile Marre, de Martinique la Première.
Son nom est associé au chlordécone depuis plus de 20 ans. Éric Godard est un cadre de l'ARS, il a même été chargé de mission interministérielle chlordécone. Et c'est encore lui qui, il y a quelques mois, révélait l'augmentation du taux de chlordécone dans la viande et la volaille. Autant dire que sa déclaration pèse lourd. Faite en interne lors d'une réunion de cadre, elle a fuité, et c'est sur les réseaux sociaux qu'elle circule depuis. Dans ce courrier, Éric Godard entre en opposition presque frontale avec les récentes déclarations des ministres Girardin et Hulot. En visite récente en Martinique, ces derniers vantaient la transparence de l'État. Éric Godard, lui, déplore l'évolution du dossier vers moins de transparence et moins d'actions concrètes. C'est ainsi qu'il dénonce, je cite, « des déclarations contradictoires révélant une certaine distance avec la vérité et les faits qui n'ont conduit qu'à discréditer toujours plus la parole de l'État ». Fin de citation. Éric Godard s'interroge également sur l'influence d'intérêts économiques dans la gestion du dossier. À la veille de la retraite, il exhorte l'administration à cesser d'avoir plus peur du chlordécone que les populations concernées. En début d'année, le syndicat CDMT avait pris des positions similaires dans une lettre ouverte.
Cap sur la Guyane, des violences ont marqué le week-end à Cayenne, faisant un mort et un blessé. Une fusillade a éclaté samedi matin devant une boulangerie. Retour sur ces agressions avec Véronique Betz de Guyane la Première.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un peu après minuit, une bagarre éclate entre 2 individus place Montel à Cayenne. L'un des 2 hommes assène un coup de couteau à l'autre, la victime a 25 ans et décède des suites de ses blessures pendant son transport à l'hôpital. Fortement alcoolisé, l'auteur présumé du coup de couteau mortel qui a pris la fuite est rapidement interpellé et placé en garde à vue. L'autre fait marquant du week-end, c'est cette fusillade dimanche matin devant la boulangerie Albert, toujours à Cayenne. Selon nos informations, un homme a été victime d'une tentative de vol de sa chaîne en or. Une bagarre éclate entre lui et ses 3 agresseurs. Des coups de feu sont échangés puisque les 2 camps seraient armés. Cet incident a fait un blessé.
En bref, avant de vous quitter, la Guadeloupe vient grossir les données du Grand Mémorial, le moteur national de recherche des soldats de la Grande Guerre. Les archives du département ont mis à disposition de cette base 36 827 fiches de soldats recrutés entre 1887 et 1921 dans l'archipel guadeloupéen, Saint-Martin et Saint-Barthélemy y compris. Bonne journée, à demain.
À demain, merci Tiziana Maron pour ce journal La Première Caraïbe. On termine en musique avec Jane et All Right.
To look down at you. Things gonna be set.
sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board.